La même question me revient systématiquement. Pour vous, quel est le plus beau pays du monde ? Oui, mais à quel égard ? Pour la culture, l'architecture, la gastronomie ? Si vous me demandez de nommer le plus renversant, le plus déconcertant, le plus sidérant, alors je vais vous répondre sans hésiter, l'Inde. Bien sûr, les contrastes me frappent dans tous les pays et toutes les sociétés, mais en Inde, il me semble plus violent et sans doute plus difficile à supporter. À Bombay, il n'y a rien à visiter, mais tout est à voir. J'enjambe la pestilence d'un égout à ciel ouvert, je pousse un portail rouillé, traverse une cour surpeuplée d'enfants rieurs, et me voici dans le repère d'un artiste, au bout d'un coupe-gorge sans issue. Encombré de statuettes, de curieux outils, de tableaux illustrant l'impénétrable panthéon hindou, l'atelier m'apparaît plutôt sombre. Et cette relative pénombre met en valeur la représentation d'un Ganesha, vous savez, cette divinité à tête d'éléphant sur un corps d'homme, éclairé par quelques lumignons autour desquels se consument des bâtons d'encens. Alors arrive le maître des lieux, il m'offre le thé dans des verres colorés, présentés sur un plateau métallique au motif de lotus. Beaucoup d'acier inox dans la vaisselle indienne, et bien d'autres paradoxes dans la décoration. Je ne m'étonne plus de trouver un lavabo dans un luxueux salon particulier. Accroupi en tailleur comme un maître de yoga, sur une natte usée, un disciple est en train de sculpter une longue corne de buffle. La partie pointue est retenue entre ses orteils comme dans un étau. Au moyen d'un minuscule crochet plus fin qu'un cure-dent, cet homme s'applique à évider ce qui deviendra une précieuse œuvre d'art. À en croire le patron, il faudra du temps, beaucoup de temps, avant que soient achevés le jardin et les infimes détails contenus dans la corne ajourée. Contenu en puissance, bien sûr. Alors que je m'intéresse à ce travail, le patron poursuit ses explications. Un peu plus d'un an de travail, vous voyez, ce garçon est rapide, il tient la technique de son père. Dans notre métier, l'apprentissage dure longtemps. On commence par s'exercer sur des chutes. Ensuite, pendant quelques années, sur une ou deux pièces, évidemment médiocres. Plus tard, si tout va bien, on en réussit une qui pourra être vendue. Peut-être encore une ou deux autres du niveau de celle-ci. Je ne m'inquiète pas au sujet de cette pièce-là. À mon avis, elle va sûrement trouver preneur. Et après, je demande. Après quoi ? Me dit le patron. Oui, après avoir réussi une ou deux pièces. Il me dit, mais après, on meurt ? Il y a au moins 30 ans, je débarque pour la première fois à Bombay. Et à peine arrivé dans l'aérogare, me voilà déjà surnuméraire, absorbé par l'essaim compact des bagagistes, des pseudo-guides, des vendeurs à la sauvette, des changeurs de monnaie et autres touche-à-tout. Même à ma chemise, moite. Entre l'aérogare et l'hôtel, je suis impressionné par la quantité de taudis de part et d'autre de la route. Au Brésil, on les appelle des favelas, des bidonvilles un peu partout. 10 ans plus tard, même topo, j'atterris à Bombay, j'appelle un taxi, je lui donne l'adresse d'un autre hôtel en ville, mais il faut emprunter le même chemin pour y parvenir, donc une longue route. Et quelle n'est pas ma surprise, à droite et à gauche de cette route, de ne plus voir les taudis, les bidonvilles qui m'avaient impressionné lors de mon premier voyage. À la place, des espèces de grands cubes, des constructions de béton, avec de minces meurtrières dans le sens horizontal, le long du mur. Je pense à des infrastructures techniques, logeant peut-être des transformateurs électriques. Mais ils sont si nombreux. Alors j'interroge le chauffeur de taxi, je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'était pas pareil il y a 10 ans ici. » Il me dit « Ah non, monsieur, non, 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 ici c'était un quartier misérable. Et vous voyez, maintenant tout s'est arrangé. » Je dis « Comment tout s'est arrangé? Mais où sont les gens qui habitaient là ?» Il me dit « Mais dans ces bâtiments. » Je dis « Attendez, ces bâtiments avec des meurtrières horizontales tous les 5 ou 6 mètres ?» Il me dit « Oui. » Je lui dis « Mais où sont les fenêtres ?» Il me répond « Pourquoi des fenêtres ? Il n'y a rien à voir tout autour. » Donc, il s'agissait de clapiers, quel autre nom leur donner, avec juste ce qu'il faut pour amener une petite aération. Une autre route, inscrite dans ma mémoire, celle qui mène au Taj Mahal, incontournable merveille du monde que vous avez tous vu au cinéma ou en photo. Là aussi, la route est rectiligne, très longue, et elle traverse une zone désertique. Je me souviens de la chaleur écrasante qui posait sur le bitume des illusions de flaques soudainement évaporées quand on s'en approchait. À l'horizon, la silhouette d'un arbre solitaire. Un autre mirage ? Non, parce que je distingue une forme allongée sur les volumineuses racines superficielles. Zoom avant, l'image se précise. Et voilà qu'un homme très maigre se lève et se place au beau milieu de la chaussée en écartant les bras pour nous barrer le passage. Alors on s'arrête. Le chauffeur s'énerve. Ah, encore un calendard. Un calendard. Oui, l'individu tient une cordelette reliée au museau d'un ourson. Et très violemment, le voilà qui extrait l'animal d'une tanière d'infortune aménagée au pied de l'arbre. Et s'ensuit un pitoyable simulacre de danse. Vous savez, je donnerais n'importe quoi pour mettre fin à ce supplice. Le chauffeur, lui, en a vu d'autres, au pays des vaches sacrées ou des enfants mutilés pour en faire des mendiants bien pitoyables. « Ne vous frappez surtout pas, mon bon monsieur, me dit-il. C'est comme ça depuis des siècles. Les ours femelles sont abattus et leurs oursons vendus à des types comme lui, des calendards. Il commence par leur briser les dents. Après, avec une tige de métal chauffée au rouge, il transperce leur museau jusqu'au palais pour passer la corde. » Et voilà, le tour est joué. Il suffit maintenant de tirer sur cette cordelette, et en rythme s'il vous plaît, pour que l'ours se mette à danser sans se faire prier. Un vieux truc. Mais comment une chose pareille est-elle possible? Il me dit, vous savez, une loi l'interdit depuis 1972, mais ce n'est qu'au début des années 2000 qu'on l'applique vraiment. Alors ne me demandez pas de vous décrire ici le mausolée d'Agra, le fameux Taj Mahal. Sur le film sensible de ma mémoire, il y aura toujours au premier plan une perle de sang suintant des narines d'un animal martyrisé. Allez, j'ai quand même envie de vous dire deux mots du Taj Mahal. Mais je ne vous en parlerai pas en décrivant l'image qu'il présente le plus souvent aux objectifs, c'est-à-dire la face de cet incroyable mausolée. Si vous allez là-bas, et si vous avez un peu de curiosité, sortez des chemins battus et rendez-vous de l'autre côté du monument, sur le côté qu'on ne voit jamais en photo. Vous allez surplomber un fleuve ou une grande rivière. Si vous prenez le temps de descendre sur les berges de cette rivière, si vous vous y trouvez en fin d'après-midi, soleil couchant, s'il y a un petit peu de vent, vous ramènerez de votre voyage la plus extraordinaire des images. celle de dizaines de femmes qui viennent de faire leur lessive et qui font sécher leur sari au vent comme des oriflammes en les brandissant au-dessus de leur tête. Cette image est assortie d'un son pour moi, celui d'une sorte de tam-tam ou d'instrument à percussion en tout cas, rythmant une crémation un peu plus loin dans la forêt, avec une fumée qui s'échappait en direction des nuages. Je vous l'ai dit, l'Inde, c'est le royaume des contrastes, le plus beau, le plus laid, le plus riche, le plus pauvre. Ce souvenir remonte à un voyage du côté de Madras, dans le sud du sous-continent. Je n'ai jamais rencontré une telle chaleur sous d'autres latitudes. C'était le dernier jour de ce voyage en Inde et j'avais encore dans mon porte-monnaie quelques roupies, un peu plus, une liasse de dollars aussi, au cas où. On traverse une rue et je remarque un petit étal où l'on vendait des broderies. Cet étal était tenu par les bonnes sœurs d'un couvent voisin. Et donc c'était une sorte d'ouvrage de dame qui était proposé là aux passants pour subvenir aux besoins d'une petite communauté qui sans doute en avait bien besoin. Une adorable bonne sœur m'invite à m'arrêter et à regarder ses petits napperons, mais je n'avais vraiment aucune envie d'acheter ce genre d'objet qui n'aurait pas trouvé sa place dans mon intérieur. Mais en voyant le regard si sympathique et si accueillant de cette femme, je me suis souvenu de la liasse de dollars dans ma poche et je me suis dit que je n'en aurais sûrement plus l'usage avant de reprendre le soir même mon avion pour l'Europe. J'ai donc laissé la liasse à la bonne sœur qui du coup voulait me donner tous les napperons de l'étal. Encore une fois, je l'ai remercié en souriant et je suis parti. Elle m'a rattrapé dans la rue et m'a demandé ma carte de visite. Me croirez-vous si je vous dis que tous les nouvel an, pendant une bonne décennie qui ont suivi ce voyage, j'ai reçu à mon domicile, puisque les bonnes sœurs en avaient l'adresse, un petit napperon minuscule avec des vœux de bonne année à notre bienfaiteur du bout du monde. La somme n'était pas énorme, sans doute, mais pour elle, elle avait représenté beaucoup. Et j'ai acquis ce jour-là une idée qui ne m'a pas quitté dans les voyages qui ont suivi. C'est-à-dire que nous sommes tous des bons génies en puissance ou des bonnes fées. Avec une somme pour nous modique par rapport à notre niveau de vie, on peut vraiment faire des miracles dans celle des autres.
Unconcerned, it's an unnecessarily heady brew.